surprise, motherfuckers.
Bienvenue au Bagarre Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagarre Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagarre Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre. On est de retour pour une nouvelle émission en ce mardi 28 mai. Pour m'accompagner aujourd'hui, effectif un petit peu réduit, Lounis Pilatan. Comment vas-tu, Lounis ?
Ça va très bien. J'ai un petit peu couru, mais tout va bien.
Il faut savoir que Lounis vient de rentrer vraiment à l'instant dans le studio pendant le jingle. On n'a même pas eu le temps de lui dire bonjour.
Il a un timing absolument parfait.
Exactement. Donc oui, ça va, une bonne journée.
Tout à fait, très bien. Okay. Très content d'être ici.
Eh bien, parfait. Hugo est malheureusement absent pour ce soir. Il est en région bordelaise pour passer le BAFA. Donc forcément, un petit peu plus compliqué d'assister à l'émission. En revanche, Nora est également présent à la régie. Salut Nora.
Salut Aurel.
Ça va bien ?
Ça va très bien, et toi ?
Eh bien, écoute, je me porte à merveille une nouvelle fois pour cette belle émission qui arrive. Pour ceux qui nous découvrent, le concept de l'émission est simple. C'est une bande de potes qui va parler de MMA pendant une heure, avec des débriefs, des actus, des quiz ou des chroniques en tout genre. Alors installez-vous confortablement, car on est mardi, et le mardi, c'est Bagarre Club. Au programme de ce soir, gros débrief de l'UFC 302. On va revenir ensemble sur les combats principaux, et notamment sur le main event qui opposait Islam Makhachev à Dustin Poirier, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce combat. Et en fin d'émission, on va aborder évidemment le combat de Nassourdine Imavov, qui aura lieu samedi contre l'américain Jared Cannonier. Un combat très important qui pourtant passe un petit peu sous les radars en ce moment. Voilà donc pour le programme de ce soir. Donc sans plus attendre, on commence avec les actus.
How much can you know about yourself if you've never been in a fight? Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
L'actualité, comme je l'ai dit dans le sommaire, c'est évidemment l'UFC 302 qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche aux États-Unis. UFC 302 avec pour main event donc Islam Makhachev contre Dustin Poirier. Lounis, est-ce qu'on attaque directement dans le gros du sujet?
On peut commencer directement par le main event.
Allez, on commence donc par le main event. Islam Makhachev, le Russe, qui s'est imposé par soumission au cinquième round contre l'Américain Dustin Poirier. On attendait une domination de Makhachev et c'est ce qu'on a eu.
C'est plus nuancé, mais oui, globalement, bon, Makhachev a été meilleur que Poirier, principalement dans les phases de clinch, de lutte et de grappling. Ça, on s'y attendait compte tenu du passif de Makhachev. Mais là où il a surpris et là où Makhachev est devenu encore plus flippant, c'est que on l'avait déjà vu dans le combat contre Volkanovski, mais il a un très très bon striking. Il a une belle boxe. Il a des kicks et notamment une approche un peu thaï qui est super, enfin qui est vraiment superbe et parfaitement, on va dire, mêlé au reste de son arsenal martial. Donc ouais, Makhachev, c'est un combattant très très complet et on s'attendait donc à ce qu'il roule complètement sur Dustin Poirier et on a été surpris parce que Poirier a quand même survécu et a tenu tête à Makhachev jusqu'au cinquième round et c'était quand même une sacrée guerre entre les deux. Makhachev a été blessé au nez. Les deux justement se sont rendus coup pour coup. C'était vraiment très très tendu et finalement le cardio et on va dire la volonté de domination totale de Makhachev a fini par l'emporter sur l'Américain puisque Islam Makhachev a réussi à placer une Darce Choke, je crois que c'est bien ouais. Ça le nom de la soumission au cinquième round et Poirier pouvait pas, c'est pas une question de mental, c'est juste qu'il était complètement, il pouvait pas lutter face à la prise qui était en train de lui faire le Russe, donc il s'est rendu.
Moi j'aimerais qu'on revienne quand même sur ce geste d'Islam Makhachev Vraiment, ouais. cette finition et tout ce qu'il y a avant, ouais. l'amener au sol, donc sur un sweep. Un sweep, c'est le Russe qui va venir choper la cheville de Dustin Poirier. Il va effectuer une rotation au niveau de sa cheville. Du coup, l'Américain a été obligé un petit peu de faire une roulade au sol. Et à partir de ce moment-là, Maratchev a réussi à glisser derrière son dos pour ensuite le manœuvrer et aller caser l'étranglement. Et honnêtement, avoir la créativité, avoir le talent technique pour faire ça, alors qu'il y a déjà eu 4 rounds d'avant, où comme Lounis l'a dit, c'était vraiment une véritable guerre, ça démontre quand même d'un niveau assez exceptionnel de Maratchev.
Hein. Complètement, niveau exceptionnel, et je veux dire que ça ne plaise ou non aux fans de MMA, parce que bon, certains font des reproches à Maratchev sur sa prétendue absence de charisme, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a un truc en tout cas qu'on ne peut pas lui enlever, c'est un champion, un vrai, et on le répète énormément au cours des émissions, mais un champion, c'est un combattant qui, dans un moment critique, va faire un choix qui retournera complètement l'issue du combat. Ça se vérifie, hein, je vais pas tous les énumérer, mais là, Maratchev, c'est précisément ce qu'il a fait. Il aurait pu, hein, continuer à tenir tête à Poirier et obtenir, bon, une décision partagée ou une décision unanime. Non, 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 non. Il voulait le finir. Et alors même que Poirier se défendait très, très bien au sol, ça m'a beaucoup surpris, il a quand même réussi à faire une sorte de mind game avec lui, à lui faire croire qu'il pouvait s'échapper du sweep, pas du tout. Et non, magnifique, très très belle soumission de Maratchev.
Moi, je vais revenir un petit peu du coup sur la performance de Dustin Poirier, parce que c'est vrai que c'était un petit peu le personnage principal de ce combat, hein, ouais. et Maratchev c'était l'antagoniste. Et c'est vrai que Poirier, on s'attendait tous à ce qu'il se fasse vraiment rouler dessus. Je trouve quand même qu'il s'est fait dominer. Malgré tout, oui. Malgré ce qu'on puisse dire. Et certains ont dit, ouais, il a fait jeu égal. Pour moi, non, quand même. Il y avait quand même une classe d'écart qui se ressentait sur tout le long.
On est tellement, je peux rebondir sur ça, mais on est tellement habitué, en tout cas jusqu'au combat contre Volkanovski, au premier combat contre Volkanovski, on était tellement habitué à ne pas voir Islam Maratchev souffrir, ou en tout cas prendre des coups, ou être en difficulté, que dès que un ou deux combattants arrivent à le faire, on est « Oh mon Dieu, ils ont réussi à faire jeu égal ». Alors, ça c'était, selon moi, c'était le cas pour le premier combat entre Maratchev et Volkanovski. Oui. Là, Poirier, je dirais qu'il y a un round qui prend très clairement, le troisième.
Ouais, ça c'est vrai.
Le quatrième, c'est plus disputé, je le mets en faveur de Maratchev, mais Poirier avait vraiment beaucoup de répondants. Mais non, il n'y a pas photo, il y a quand même, avant même si on ne compte pas la soumission, il y a 4 rounds qui sont pour, trois clairs qui sont pour Maratchev.
Non, je suis d'accord, mais surtout en fait, même si il y en a qui ont souligné ses défenses de takedown, oui, il en a défendu, mais il en a aussi pris beaucoup,
il s'est beaucoup
fait amener au sol. Une fois qu'il était au sol, j'ai l'impression que il était tout le temps dominé. Certes, il ne se fait pas soumettre, mais j'ai l'impression que c'était vraiment plus en mode survie que plus que qu'essayer de vraiment gêner Maratchev qu'autre chose, hein, vraiment
même lui le disait en conférence de presse, mais son objectif c'était clairement pas de faire jeu égal au sol, hein, il voulait rester debout et essayer de décrocher un lucky punch et potentiellement un KO sur Maratchev.
Et voilà, et debout, c'est vrai que on l'a dit, Dustin Poirier a sur certaines phases mis en danger Maratchev. J'ai envie de dire heureusement.
On parle quand même d'un des meilleurs strikers de l'UFC.
Moi, avant le combat, je me suis dit, s'il y a des phases debout, sur les phases debout, je veux voir un Poirier qui est dominant, qui en profite pour mettre l'accélérateur et vraiment mettre dans le mal Maratchev. Oui. Il se trouve que c'est plus Maratchev qui a fait jeu égal, voire plus, en striking face à Poirier. Hein.
C'est plutôt dans ce sens-là, mais faut pas perdre de vue que c'est, comme tu l'as souligné, mais c'est Maratchev qui avait l'ascendant pendant tout le combat, donc... l'endurance de Poirier était déjà énormément drainée,
oui,
ce qui fait que même s'il a clairement le calibre d'un champion, tu penses pas pareil quand t'es debout après avoir été emmené au sol 4-5 fois pendant un round. C'est difficile de
même oui, c'est vrai.
pendant le troisième, il m'a beaucoup surpris le moment où il se remet debout et il commence à effectuer une espèce de, en boxe on appelle ça un domicile roll, mais c'est une sorte de où il va bouger les épaules de manière extrêmement menaçante, en fait envoyé comme ça de manière très
aléatoire presque.
Pas aléatoire, c'est pas exactement aléatoire, mais il va effectuer une espèce de roulade d'épaules, je sais pas comment le dire, et il va envoyer justement les crochets, les directs comme ça. Bon, c'est une technique de boxe qui est assez connue, et là il a essayé de le faire face à Maratchev et il l'a touché plusieurs fois. Il l'avait déjà fait contre Khabib à l'époque, mais là c'était un petit peu plus efficace contre Maratchev. Donc non, il a trouvé clairement plusieurs astuces, mais c'était très très compliqué quand même.
Ouais, voilà. Donc, combat compliqué pour Poirier qui a fini par s'incliner. Moi, j'aimerais revenir sur un détail qui m'a particulièrement marqué, qui va être hors du combat. C'est vraiment la célébration de Maratchev à la fin du combat. Et en fait, c'est les gars de La Sueur qui avaient relevé ça dans leur podcast. Donc, La Sueur, c'est le plus gros média français sur les sports de combat et sur les MMA. Mm-hmm. Ils avaient fait une petite analyse comme ça du combat, et c'est vrai que j'ai trouvé ça pertinent. C'est qu'en fait, on a vraiment vu le Maratchev et tout son clan exploser de joie à la fin du combat, alors que, on l'a vu gagner d'autres combats où il n'y avait pas eu autant de suspense ou de tension, voilà, tout simplement. Oui, oui. Et en fait, moi, je pense que c'est un truc qu'on a tendance un peu à oublier, nous, par exemple, chroniqueurs et suiveurs du MMA. À chaque fois, on est là en mode, ouais, mais pour Islam Maratchev, ça va être une formalité et tout. Mais il ne faut pas oublier que pour le mec qui est dans la cage, il n'y a jamais rien qui est une formalité.
Non,
et c'est quand même un mec qui s'enferme dans une cage pour se battre avec un autre. Je pense qu'à partir de là, même si tu sais que tu es au-dessus, même s'il y a tout ça, la tension et la pression qu'il doit y avoir, il ne faut absolument pas l'oublier. Oui. Et voilà, il ne faut absolument pas passer outre. Je trouve que c'est vraiment très important. Et je pense que cette explosion de joie en fin de combat, ça montre vraiment le danger que pouvait malgré tout représenter Dustin Poirier, malgré tout ce qu'on a dit sur la différence de niveau entre les deux combattants.
Oui, ben c'est, je pense qu'ils ont le camp de Dissam a dû exploser de joie à ce moment-là, mais bon, il y a deux choses. Déjà, d'une part, parce qu'ils sont en train de cimenter l'une des dynasties les plus incroyables de l'histoire des arts martiaux mixtes.
C'est vrai
le clan Nurmagomedov, c'est quand même quelque chose. Hein,
c'est
donc, d'une part, parce qu'évidemment, Maratchev étant le meilleur ami de Khabib Nurmagomedov, et ils sont comme ça en train de créer tout un héritage. Et toute une dynastie, hein, comme je viens de le dire, sur la catégorie des poids légers. Donc, je pense qu'il y avait déjà ça, mais aussi, Poirier, c'est quand même c'est un des combattants les plus résilients de la catégorie poids léger et qui a l'une des longévités les plus dingues, dans cette catégorie. Donc, je pense que, un peu à l'instar du combat contre Charles Oliveira, ils étaient quand même, je pense, super heureux que Islam non seulement remporte le combat, mais également parviennent à obtenir une finition, parce que c'est quand même l'un comme l'autre, hein, Oliveira comme Poirier, c'est deux combattants qui sont quand même extrêmement redoutables, et dans le cas d'Oliveira, plus imprévisible que Poirier, mais Poirier a un mental tellement, il est très très costaud psychologiquement.
Ouais. Puis le tableau de chasse de Maratchev, ça commence à être quelque chose. Oliveira, deux fois Volkanovski, Poirier maintenant, donc, transition parfaite.
Oui.
C'est quoi la suite pour Maratchev, lui qui semble imbattable désormais?
Il veut, je crois qu'il souhaitait avoir une chance pour affronter Leon Edwards, donc monter de catégorie, obtenir une deuxième ceinture. Bon, c'est pas quelque chose qui m'excite énormément, personnellement, mais lui, il voudrait cimenter ça.
Pour moi, pourquoi pas, mais il faut déjà qu'il prenne Tsaroukian.
J'allais y venir, donc Tsaroukian, ce serait, je pense que voilà, le combat à faire, ce serait quand même Arman Tsaroukian qui mérite une revanche contre Maratchev, parce qu'ils se sont déjà affrontés par le passé, il y a longtemps. Tsaroukian était beaucoup plus jeune à ce moment-là, et un petit peu moins abouti dans ces techniques, mais donc je serais très curieux de revoir un affrontement entre les deux. Et puis bon, alors j'ai vu passer des potentiellement Max Holloway contre Islam Maratchev. Je sais pas si c'est hyper intéressant.
C'est pas pertinent à mon avis.
Non, je pense pas que ce soit très pertinent.
Soit Tsaroukian, soit on dit Leon Edwards, mais Leon Edwards dit combat en juillet contre Belal Muhammad.
Mais en même temps, il n'y a plus grand monde là chez les poids légers.
À part Tsaroukian en ce moment. Le problème, c'est qu'en fait, il y a tellement de niveaux qu'ils se battent tous l'un et l'autre et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à enchaîner
c'est
les
ça.
Victoires.
Oui, oui.
Et donc, réellement prétendre au titre de. De champion des poids légers. On pensait à Gaethje, mais Gaethje vient de se faire battre par Holloway.
Non, Gaethje, puis il va pas revenir avant un moment.
Voilà, on pensait, il y avait la revanche prévue contre Oliveira, mais il y a eu annulation de combat, Oliveira a perdu contre Tsaroukian, voilà. Donc oui, c'est vrai qu'à part Tsaroukian, pour l'instant, on attend qu'il y ait un autre contender qui se dégage véritablement.
Oui, oui, oui.
Ce que j'allais dire, du coup, pour les poids welter, c'est que c'est vrai que si Belal Muhammad parvient à prendre la ceinture à Leon Edwards, peut-être qu'il y aura d'autres plans avant Maratchev pour cette catégorie, peut-être une revanche, sachant qu'il y en a deux autres dans les poids welter qui attendent leur tour, Shavkat et Jack de la Maddalena.
C'est vrai.
Donc,
c'est aussi le problème hein, de vouloir obtenir une deuxième ceinture, c'est que bon, il y a d'autres personnes derrière toi, et que t'as beau être champion d'une autre catégorie, il y en a qui ont charbonné pendant des années dans cette catégorie pour obtenir leur chance au titre. Et là, dans le cas de justement des welter, je pense qu'effectivement, Shavkat et Jack de la Maddalena sont quand même beaucoup plus méritants pour un title shot que qu'Islam. Mais bon.
À voir. Ouais. En plus, c'est surtout que ce soit Maratchev ou que ce soit Edward, ce n'est pas des combattants très actifs.
Non.
Donc, si déjà, on combat
une fois par an, si on a de la chance.
C'est-à-dire, déjà, il va falloir attendre que les deux s'affrontent, il va falloir attendre que les deux ensuite se remettent. Enfin, il peut y avoir au moins un an et demi, deux ans
facilement.
Avant que les autres aient leur chance. Donc, voilà. Moi, j'espère qu'il va d'abord aller chercher Tsaroukian. Il y a un truc à raconter, il y a une revanche, il y a un mec qui peut le challenger dans son, dans son domaine de prédilection.
Tsaroukian est quand même un gros, gros finisher. Quoi.
En plus,
il cherche tout le temps la finition, tout le temps à mettre soit KO, soit à soumettre son adversaire, donc ce serait hyper intéressant.
Mais non, ça va dépendre aussi, comme toujours, de ce que l'UFC veut faire avant tout. Parce que c'est eux qui ont la mainmise, évidemment, sur les combattants, et non plus les combattants eux-mêmes.
Oui.
Voilà pour ce main event.
Ouais, je pense, qu'on a fait le tour.
Ouais, on a bien cerné le sujet, ça me semble pas mal. On va se faire une première pause musicale. Qu'est-ce qu'on écoute en premier, Nora ?
On va écouter Maneskin,
L'Altra
Dimensione.
Et on écoute Maneskin, L'Altra Dimensione, et on revient juste après pour débriefer un petit peu le reste de la carte. A tout de suite.
E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise e cima di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailar. Amico mio, devi essere felice, perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailar. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena. Marlena, sì, vienimi a parlare. Ti prego Marlena. Marlena, io ti starò a ascoltare. Ti prego Marlena. Marlena, insegnami a lottare. Ti prego Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Il ballo della vita. Il ballo della vita.
Bagarre Club.
On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez toujours le Bagarre Club. On a déjà fait la première partie de l'émission dans laquelle on a débriefé le main event de l'UFC 302, donc, qui opposait Maratchev à Dustin Poirier. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au reste de la carte. Une carte globalement qui était pas folle, hein, on va pas se mentir à l'unis.
C'était pas un énorme banger. Quoi.
Non, voilà, on n'était pas sur l'événement de l'année. Et je trouve que c'est parfaitement représenté par le co-main event de la soirée. Sean Strickland contre Paulo Costa. Victoire de Sean Strickland, j'ai envie de dire. Sean Strickland qui fait du Sean Strickland, quoi.
Bah, combat entre les deux, probablement les deux combattants les plus surestimés du roster UFC. Donc, est-ce qu'on est vraiment, t'as incroyable. Sean Strickland a envoyé des jabs et des front kicks pendant, pendant 15 minutes. Bon, plus sérieusement, donc.
Non, 25, c'était en synchrone, oh, en plus.
C'est vrai. Bon, bref. Oui, non, parce que moi, j'ai regardé la rediff. Hein, désolé, je vais être honnête. Non, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est frustrant parce qu'on voit que à plusieurs moments dans les accélérations, Strickland est capable de diversifier un peu son arsenal, d'envoyer des high kicks, de tenter des fois des spinning back fists incroyables. Enfin bref, il élargit un petit peu son arsenal justement lors de ses accélérations. Sauf que c'est dans les 15 dernières secondes du combat.
Oui, c'est ça. C'est exactement
et
ça.
Et des fois, tu le regardes et tu te dis, mec, enfin. Pourquoi tu fais pas ça, genre, plus tôt? Enfin, c'est quoi l'idée de ça? Et puis, bon, je vais passer vite dessus, mais toutes ces déclarations du « Oui, moi, je suis un combattant qui fait des guerres, je suis là pour le sang, etc. » Mais pourquoi t'envoies des jabs pendant trois quarts d'heure, alors? Enfin, c'est quoi le principe?
Alors, je vais vous faire un petit résumé, moi, du combat. Lounis l'a très bien fait. Le résumé, c'est qu'est-ce qu'on a? On a Sean Strickland qui avance constamment. Ça, c'est vraiment sa marque de fabrique. Ouais. Pression constante. Il envoie des jabs, des front kicks, donc au niveau du corps de Paulo Costa. Le tout en avançant. Paulo Costa, pour éviter ça, il va faire des rotations sur le côté et dos à la cage tout le long. Et du coup, c'était un combat horloge, en fait.
Ah non, mais
t'avais un mec dans le centre et t'avais l'aiguille qui tournait, Paulo Costa.
C'était terrible.
Et qui faisait le tour de l'octogone comme ça.
C'était terrible. Et ça, je le disais là en off, mais ça corrobore ce que je disais. Hein. Costa, c'est vraiment un des combattants les plus surestimés de la catégorie et même de l'UFC de manière générale. Il a fait un combat anthologique contre Yoel Romero depuis, mais c'est
triste.
Mais je crois qu'Adesanya lui a vraiment volé son âme. Hein. Mais vraiment, c'est pas possible. Donc, j'ai pas grand-chose à dire. Honnêtement, j'aime aucun des deux, mais je mets des gros guillemets à ça. J'avais plus de sympathie pour Strickland parce qu'il me donnait plus l'impression de quelqu'un qui travaille beaucoup, qui s'est énormément démarqué lors de ses derniers combats, qui acquiert un certain niveau, en tout cas pour prétendre au titre qu'il a eu pendant un moment donné. Mais va falloir. Je sais pas ce que ses coachs lui disent, honnêtement, mais élargis ton arsenal, mec. C'est insupportable, quoi.
Moi, je pense que le problème de ce combat-là, enfin, le fait qu'il n'a pas été intéressant, pour moi, c'est surtout au fait de Paulo Costa. Parce que Strickland, c'est Strickland, on le connaît.
Mais oui.
En fait, il a son style à lui, qui est très particulier, qui est très dur à appréhender, mais qui est ultra efficace et qui fonctionne à chaque fois.
Oui.
Mais le problème, c'est que Paulo Costa, en face, il a rien proposé.
Mais c'est ça. Oui, clairement.
C'est une blague qu'on fait souvent entre nous, mais c'était vraiment le combat yaourt nature, quoi.
Il n'y a rien à dire, quoi. Enfin, si on peut dire, tu vois, c'est un combat, il y a des mecs en short, des fois ils s'envoient des coups, c'est définitivement un combat, ouais. Et c'est tout. Tu peux pas développer là-dessus. Il n'y a même pas, tu vois, ce petit highlight ou cette petite fulgurance que Costa peut avoir, notamment lors de son dernier combat contre Robert Whittaker, où il avait envoyé comme ça un espèce de spinning wheel kick très très beau et qui a failli mettre KO Robert Whittaker. Il n'y a même pas eu ça.
Je crois qu'il l'a tenté à un moment, mais ça.
Honnêtement, j'ai même pas prêté attention.
C'était un peu sorti de nulle part comme ça. Allez, on tente ça.
C'est vraiment le truc de dernière chance.
Ouais, non, vraiment très déçu. Enfin, j'ai même pas envie de dire déçu parce que moi, j'avoue, j'en attendais pas grand-chose de ce combat. Je sais que toi, t'étais quand même un peu plus hypé.
Honnêtement, j'étais chaud. Je me disais, c'est combat entre deux grandes gueules, en plus qui sont connues quand même pour aimer se mettre tarif. Hein, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, Strickland, il aime le sang. Costa aussi. Donc, je disais, vas-y, ça peut être intéressant. Mais purée, qu'est-ce que c'était soporifique. Là, je peux faire la comparaison parce que moi, je l'ai regardé en direct. Je vous jure, Strickland, Dricus du Plessis, c'était beaucoup plus intéressant que ça.
Mais vraiment,
c'était, il y avait plus de technique, plus de stratégie, plus de suspense même. Enfin, non, il y avait pas photo,
déjà,
quoi.
Déjà, Dricus du Plessis, il avait la menace du sol, ce qui avait obligé Sean Strickland à un petit peu modifier son game plan.
Ouais.
Même du Plessis, il avait beaucoup plus d'explosivité au moment où il fallait rentrer dans les échanges.
Ouais.
Donc, ça n'a rien à voir. Et Paulo Costa, merci pour rien.
Hein. Mais merci, au revoir. Merci. Quel gâchis, honnêtement. Enfin, j'y repense, il était tellement prometteur à une époque, c'est vraiment dommage, mais bon.
Le fait qu'il ait eu pas mal d'annulations aussi, je pense, a beaucoup freiné un petit peu son rythme, quoi. Ça l'a sûrement coupé.
Ouais, ou juste Le fait d'avoir, comment dire, d'avoir eu le retour de bâton stellaire de son combat contre Adesanya, je pense mentalement ça a dû quand même.
Ouais, aussi, je pense qu'il a.
Je pense que, honnêtement, je pense vraiment qu'Adesanya lui a volé son âme ce jour-là, mais bon.
Voilà, donc ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ce co-main event, on va passer à d'autres combats. Une belle performance, tiens. Kevin Holland, soumission premier round. Alors ça, on l'avait pas vu venir.
On l'avait pas vu venir, mais bon, Kevin Holland, c'est un petit très très chaotique. On sait jamais oui, trop à quoi s'attendre. Si, voilà.
Et là, ouais, c'est ça. Bah, justement, tu le disais, on ne sait pas à quoi s'attendre. Son dernier combat, on en avait parlé, c'était une prestation insipide contre Michael Page.
Très dommage.
Où il avait été vraiment. Il n'était jamais rentré dans son combat.
Non, on a l'impression qu'il avait passé à côté du combat. Ouais.
Et là, hop, pour se faire pardonner, quelques mois plus tard, paf, soumission premier round. Et il rappelle un peu à tout le monde qu'il a quand même du talent.
Mais sur un. Enfin, pas c'est mal l'expression, mais sur un gros malentendu en plus, sa soumission. C'est-à-dire Mais non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il. Enfin, il se fait envoyer au sol, je crois par un knockdown, hein, carrément, et il tombe, et le type essaie de justement de, j'ai plus le nom de son adversaire, pardon, excusez-moi.
Parce que c'est un nom compliqué, c'est un ukrainien, je crois.
Ouais. Et justement, son adversaire commence à rentrer dans une phase de grand man porn, et Holland arrive à passer, alors, j'ai plus le terme, mais globalement, c'est une clé de bras qu'il fait à partir, je crois, de, en utilisant ses jambes, quelque chose comme ça. Et il arrive comme ça à soumettre son adversaire, mais c'était vraiment curieux, quoi.
C'est son adversaire qui a fait une erreur, en fait, tout simplement. Et Kevin Holland, comme font les très très bons combattants, les erreurs, ils les saisissent et ils en profitent pour aller chercher la victoire. Oui.
C'est pour ça qu'il est redoutable.
Donc, voilà, c'est ça, tout simplement. Donc, Kevin Holland qui se relance bien et je pense que c'est bien parce qu'on aime bien Kevin Holland, c'est un combattant qui est actif, qui est toujours intéressant à regarder. Donc, s'il peut être encore. Dans le top niveau, on prend évidemment.
Que ce soit qu'il reste une sorte de gatekeeper, c'est assez intéressant. Enfin, parce que comme ça, les nouveaux prospects ou espoirs, justement, qu'on pourrait attendre dans la catégorie, se frotteraient à lui et ça donnerait des combats toujours assez divertissants. Et je pense même pour les combattants, Kevin Holland, c'est un bon test parce qu'il est tellement imprévisible et tellement opportuniste. Que du coup ça contraint le combattant justement à chercher des failles, à essayer justement de rentrer lui aussi dans une espèce de guerre psychologique. Donc ouais, on aime beaucoup Kevin Holland et on espère qu'il restera encore actif un long moment.
On va parler d'un troisième et dernier combat pour le reste de cette carte. Et c'est un combat, je pense, qui va nous permettre de digresser un petit peu et de commencer à rentrer petit à petit dans l'UFC Paris qui arrive en septembre. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais c'est le combat de Gelton Almeida, donc poids lourd brésilien, qui a soumis Alexander Romanov au premier round. Donc jusqu'à là, Almeida qui soumet un poids lourd, on l'a déjà vu à de nombreuses reprises.
Pas une énorme surprise.
Voilà. C'était pas arrivé lors de ses derniers combats, mais là, voilà, dès qu'il a un cran au-dessus, tout de suite, il en profite pour montrer qu'il est le patron. Et pourquoi ça nous intéresse particulièrement, c'est parce que Gelton Almeida, une fois le combat fini, il a call out, donc il a provoqué entre guillemets notre Français Cyril Gane qui cherche toujours un adversaire pour l'UFC Paris en septembre. Est-ce que là ça y est, on l'a vu, le Cyril Gane Almeida, ça va être main event UFC Paris 28 septembre.
Moi, ça fait un moment que j'en parle justement de ce combat et que je dis que ce serait le seul choix qui s'offre à Cyril Gane vu que Spinal c'est fini, Pavlovic là il a déjà un combat de prévu, donc le seul dans la catégorie poids lourd qui est disponible, c'est Gelton Almeida, et Gelton Almeida, il a un très bon niveau en lutte. Et c'est ce qu'on n'avait pas vu face à Sergei Spivak. Et là, j'aimerais bien voir justement Cyril Gane qui met en pratique, j'espère, ce qu'on lui a appris en lutte, quoi. Parce que bon, c'est deux défaites pour un titre mondial, on va pas revenir dessus, mais à chaque fois, c'est un truc qui pêche. Et là, j'aimerais bien voir un combat entre Cyril Gane et Gelton Almeida, surtout que. Cyril, soit tu veux rester actif, tu veux faire quoi en fait là ?
Voilà, c'est ça. Parce qu'on le rappelle, Curtis Blaydes qui va donc combattre pour l'UFC Manchester en juillet ou en août, je sais plus, mais qui va bientôt combattre en juillet donc voulait affronter Cyril Gane, mais Cyril Gane n'était pas disponible pour un tournage de film. Alors on se demande si Cyril Gane a peut-être plus envie d'être acteur que combattant MMA.
Le pire, c'est que pendant un moment il disait un jour j'aimerais bien être acteur, mais pas tout de suite. Genre d'abord je finis ma carrière au UFC.
Mais du coup t'as parlé un petit peu donc de son dernier combat en date qui était déjà pour l'UFC Paris. Ça fera un an entre temps quand même. C'est pas rien. Et c'était contre Sergei Spivak. Il l'avait largement dominé. Oui. Ça, il n'y avait rien à dire, hein, vraiment. Cyril Gane avait fait une très très belle performance. Oui, oui. Mais Spivak qui rentrait toujours dans cette catégorie des poids lourds qui sont du pain béni pour Cyril Gane, bah, en fait.
Oui, pas très mobile.
Voilà, peu mobile, peu énergique. Ouais. Voilà, pour Cyril Gane, lui qui est très vif et tout, pour un poids lourd, c'est du tout cuit, en fait,
bah,
tout
oui,
simplement.
Clairement,
avec Almeida, c'est quand même un poids lourd qui est beaucoup plus léger que les autres, qui est beaucoup plus mobile et qui a ce côté un peu plus... toute proportion gardée évidemment, un peu plus zanguille dans sa lutte, on va dire.
Oui, oui, oui.
Voilà, beaucoup plus félin, on va dire.
Oui, oui, oui.
Et là, peut-être que ça va un peu plus poser problème à Cyril Gane, surtout que bah il a un petit peu perdu. Enfin, ça fait un moment qu'on l'aura pas vu dans la cage, tout simplement.
Bah, c'est ça, clairement. Donc, je connais pas exactement les, on va dire les dessous de cette absence en détail, autre le fait qu'il est en train de tourner un film, mais. Ouais, non, j'ai pas grand chose à dire. Moi, je pense que c'est le seul combat à faire. Et en fait, même sportivement parlant, c'est un des seuls qui serait vraiment intéressant. Parce que là, on verrait Cyril Gane face à un. Justement, Almeida, c'est ce qu'il veut. Hein. C'est emmener Cyril Gane au sol et essayer de le soumettre. Son game plan, il est assez clair. Donc, moi, j'aimerais voir comment Cyril Gane peut se débrouiller face à un adversaire comme ça. Et puis, bon, ça va sans dire que s'il se fait encore soumettre ou s'il se fait encore dominer au sol, ça va.
Là, ça va être.
C'est impossible de retrouver un titre, je pense.
Ah, bah oui, non. Déjà, là, c'est très compliqué. Hein, parce qu'il est peu actif. Il a évité beaucoup de combats, notamment contre Aspinall. Aux États-Unis, il n'est pas aimé. En France, sa popularité baisse petit à petit.
Oui, au profit de Saint-Denis.
Au
clairement.
Profit de Benoît Saint-Denis, d'ailleurs. Il y a une petite actu, d'ailleurs, sur Saint-Denis.
Ouais,
ouais. Je pense qu'on va avoir le temps d'en...
La même, ouais.
On va avoir le temps d'en parler. On en parlera juste après. Voilà, donc Cyril Gane qui... Bah, en fait, ce serait quand même pas mal qu'il aille chercher une victoire convaincante contre Almeida. Parce qu'Almeida, elle a quand même une cote, hein.
Ouais.
Je trouve qu'il est souvent sur les main cards des UFC numérotés.
Bah, ils essayent de le pousser.
Il
clairement.
Est plutôt actif, ouais, ouais, il a pas mal de soumissions à son actif. Donc, je pense
qu'il est redoutable, ce serait intéressant.
Ah, oui. Si Cyril Gane vient à soumettre à battre Jelton Almeida.
Ce serait incroyable s'il arrive à soumettre.
Ce serait dingue. Avec la manière, surtout, devant son public, bah là, ça va permettre un petit peu de redorer son blason, voilà, de remettre son nom dans les discussions pour les combats au très haut niveau de la catégorie, tout simplement.
Oui, oui, oui.
Est-ce que du coup, parce que là on a fini un petit peu sur l'UFC 302, est-ce qu'on aborde un petit peu ce qu'on disait, l'actualité sur Benoît Saint-Denis?
Bon alors à nouveau ça reste à être officialisé, mais il y a des rumeurs.
C'est officiel.
C'est officiel?
Attends, est-ce qu'on parle de la même actualité?
Bah,
vas-y.
Moi, ce que j'ai vu passer c'est Benoît Saint-Denis contre Jalin Turner à l'UFC Paris.
Ah alors moi j'avais pas du tout cette actu là.
T'avais vu quoi?
Moi j'avais une actu qui avait rien à voir, c'est la fin de l'histoire entre Benoît Saint-Denis et Daniel Voirin.
Ah ben je l'ai pas.
Ah, tu l'as pas?
Ah, dis-moi en plus.
Eh bien, c'est un truc qui était déjà un petit peu en... C'était une petite rumeur comme ça qui coulait les dernières semaines. Et je crois dans la semaine dernière, là, il y a Daniel Voirin qui a fait un tweet annonçant officiellement la fin de la collaboration entre Benoît Saint-Denis et donc Daniel Voirin, son entraîneur de longue date. Et au vu du tweet de Daniel Voirin, ça n'a pas été une séparation en très très bons termes.
On dirait pas, il essaye de rester neutre. Parce que oui, j'ai vu ce truc-là passer, les raisons exactes, je ne les connais pas,
ouais.
Toi non plus je pense, mais
non.
J'ai vu justement la déclaration de Daniel Voirin passer. Il essaye de rester aussi neutre et professionnel que possible, mais on sent qu'il y a dû y avoir une dispute ou une affaire d'ego, quelque chose.
Ouais, en fait, il sous-entendait plus ou moins que Saint-Denis a peut-être un peu pris la grosse tête et tout. Voilà.
Quelque chose du genre.
Ouais, il est resté quand même classe malgré tout, mais on sent qu'il y a un contentieux entre les deux.
Ouais.
Et Benoît Saint-Denis avait remis un tweet aussi et il disait un peu en mode ne prenez pas parti quand vous avez qu'un seul des deux points de vue, on va dire.
Il doit y avoir une dispute ou quelque chose derrière.
Une guerre d'ego, peut-être pas d'ego, mais voilà.
Voilà.
Il y a un truc qui humainement fonctionne plus en fait, tout simplement.
Probablement, je pense que. Alors peut-être, je fais une supposition. Peut-être que le dernier combat de Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier a peut-être été décisif dans leur relation, dans la mesure où Saint-Denis n'avait pas vraiment suivi les conseils justement de Daniel Voirin. Enfin, je sais.
Peut-être.
Il y a peut-être un truc de ce genre-là. Mmh. Bon, en tout cas, je me fais pas trop de soucis sur la faculté de Daniel Voirin à retrouver justement à continuer à coacher des très bons combattants parce que c'est vraiment un super coach. Et bah, Saint-Denis, on verra. Hein.
Pour l'instant, Saint-Denis, il est retourné avec ses coachs du début à Bayonne.
D'accord. Ah oui, donc voilà. Retour
donc,
au.
J'ai l'impression que c'est plus un petit peu une solution de secours en attendant de trouver autre part.
Bah, peut-être.
Parce que pour moi, alors, ça reste mon analyse perso, mais pour moi, si tu veux être dans les meilleurs, faut s'entraîner avec les meilleurs, que ce soit les autres combattants, donc les meilleurs des autres combattants, ou avoir les meilleurs coachs dans son coin.
Il y a de ça. Après, bon, je vais faire une. Il y a des exceptions. Tu as Fedor qui s'entraîne avec littéralement personne dans le fin fond,
oui,
de la Russie.
Vrai.
Il était invaincu pendant 10 ans. Il y a des exceptions, mais je suis d'accord avec
toi.
Ouais,
mais c'était une autre époque.
C'était une autre époque. J'y viens justement. Je nuance. C'était une autre époque. Maintenant, à l'heure actuelle, où les combattants sont de plus en plus complets et où la concurrence est de plus en plus rude parce que le MMA devient de plus en plus populaire, c'est capital et c'est crucial de trouver justement d'être auprès des meilleurs entraîneurs et de se parer avec les meilleurs sparring partners.
Donc tu vas voir la future destination de Benoît Saint-Denis. Est-ce qu'il reste aux sources à Bayonne? Est-ce qu'il va aller dans une équipe un petit peu plus renommée, hein? Je pense que c'est pas le choix qui manque et je pense qu'il y a d'équipes qui aimeraient bien beaucoup de coachs qui aimeraient bien le récupérer, hein, parce que c'est quand même quelqu'un, Benoît Saint-Denis.
Clairement.
On en a quand même bien assez parlé dans cette émission
puis,
pour le savoir.
Clairement, il est en train de devenir. C'est pas simplement pour se fier aux chiffres sur Instagram, mais il est clairement en train de devenir l'une des plus grosses superstars. Il a quasiment dépassé Cyril Gane en termes de popularité, quoi.
Donc,
pas Doumbé, oui.
Donc voilà, c'était une petite actu comme ça qui m'avait un peu surpris quand même. Je m'attendais pas à ça, j'avoue.
Ça arrive, hein, malheureusement, les coachs les coachs et les combattants qui se séparent l'un et l'autre, ça arrive. C'est dommage parce que Warren Saint-Denis, ça fonctionnait très bien, mais bon.
Bah écoute, c'est comme ça. De toute façon, c'est des histoires d'hommes. Hein, ça,
c'est ça. Moi, ça ne me concerne pas.
C'est de l'humain. Donc, si les deux ont senti le besoin de mettre fin à leur collaboration, ça les regarde. Et nous, on jugera uniquement les performances dans la cage. Simplement. On va faire une deuxième pause musicale. Nora, qu'est-ce qu'on écoute?
On va s'écouter Rob Zombie.
Rob Zombie.
Dragula.
Okay.
Non, en fait, Rob Zombie, c'est l'artiste.
Ah ok, pardon. Et bon, on va s'écouter Dragula de Rob Zombie. On revient juste après. À tout de suite. We'll be right back.
prochaine.
Bagarre Club.
On est de direct. Belle
aussi,
reprise
oui.
Là. Belle reprise. On est de retour en direct sur Prune. Vous écoutez toujours le Bagarre Club. Et on va entamer la troisième et dernière partie de notre émission. Donc on a déjà fait un long débrief sur tous les combats de l'UFC 302. Et là on va se tourner vers le futur. Qui dit le futur dit samedi prochain. Pour l'UFC Fight Night.
Surproche.
Avec en main event le français Nassourdine Imavov qui va affronter Jared Cannonier. On en parle très peu de ce combat, je trouve.
Non, mais parce que les gens ne se renseignent pas. En fait.
Exactement.
Et je vais vous faire confession, c'était un peu mon cas jusqu'à présent. C'est-à-dire que, Nassourdine Imavov, je l'apprécie. Mais sans plus, en fait, sa dernière performance contre Roman Dolis, je la trouvais vraiment forte.
Excellente.
Excellente, hein, clairement. Hein, voilà. Jared Cannonier, il avait quelques belles perfs à son actif et ça n'a jamais été un combattant qui m'intéressait énormément. Et je n'avais pas vu le dernier combat de Jared Cannonier en date, celui contre Marvin Vettori, ce que j'ai fait avant de venir à l'émission. Et oh mon Dieu,
allumé une tempête. Hein.
Ah non, mais c'est et incroyable. Je n'aurais jamais pensé que Jared Cannonier, qui approche quand même des 40 ans, soit capable de faire ça. Mais c'est extraordinaire.
Ah ouais, non.
Vraiment, en plus, le style qu'a Jared Cannonier, vraiment à mi-chemin entre un boxeur qui mettrait énormément de pression en avançant constamment sur son adversaire, tout en travaillant énormément les contres, les feintes. Enfin, il a vraiment une très très belle boxe et il frappe dur et ça sent. Marvin Vettori a vraiment une mâchoire de dingue.
Il a du plomb dans les poings.
Ah, mais vraiment quoi. Et donc les gens en parlent peu parce que, je pense, Jared Cannonier, il parle pas beaucoup. Nassourdine Imavov, il sait pas vraiment vendre ses combats ou avoir une persona très identifiée, comme par exemple c'est le cas pour Benoît Saint-Denis. Mais à côté de ça, sportivement parlant, non, je suis très hypé par ce combat.
Alors du coup, tu l'as parfaitement dit, Nassourdine Imavov, donc combattant français, qui ressort d'une année 2023 très décevante.
Ouais, malheureusement.
Donc beaucoup d'annulations, des combats qui se sont pas faits, des combats qui se sont arrêtés, une défaite contre Strickland.
Ouais.
Et il a très très bien rebondi donc face à Roman Dolidze. Mm-hmm. On l'avait parlé, il avait changé aussi de camp d'entraînement, il avait quitté le MMA Factory.
Mm-hmm.
Donc nous on suit attentivement Nassourdine Imavov parce que on a la sensation que il a quand même un truc en lui qui fait que il peut aller chercher quelque chose d'intéressant dans une catégorie qui est un peu en ce moment à la recherche, on va dire, de sa nouvelle star.
Ouais.
Avec le déclin d'Adesanya tout simplement.
Ouais.
Et en face, donc comme tu l'as dit, on a Jared Cannonier. Je vais te donner deux stats sur Jared Cannonier pour qui vont aider un petit peu à cerner le personnage. La première, c'est que c'est un combattant qui fait ses débuts en poids lourd. D'où sa grosse puissance de frappe.
Oui.
C'est un combattant ensuite qui est donc passé en poids mi-lourd. Il a fait quelques combats, mais c'était plutôt en temps de scie. Et ensuite, il a fait son passage en poids moyen. En poids moyen, il a fait, alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a fait 10 combats. C'est beaucoup, 10 combats.
C'est pas mal. Ça fait un passif, quoi.
Il a deux défaites, une contre Robert Whittaker, une contre Israël Adesanya.
Voilà.
Voilà, qui sont
en gros littéralement les deux meilleurs combattants de la catégorie.
Les 10 dernières années, c'est les deux derniers champions dominants en date. Donc voilà. Jared Cannonier, c'est un très, très gros morceau.
C'est un sacré client qui passe complètement inaperçu parce qu'il est assez mutique et il a quelques KO mémorables, hein, celui contre Derek Brunson notamment, mais de manière générale, c'est pas quelqu'un qui stoppe net d'un coup avec en plus un mouvement ou quelque chose qui peuvent à l'époque comme un Anderson Silva où vraiment on voit le truc et on se dit oh la vache. C'est juste techniquement il est extrêmement abouti, mais justement il génère pas beaucoup de d'attrait du public parce qu'il est insipide, c'est vraiment pas le terme, mais il est un petit peu invisible.
Il est plus discret, ouais, c'est ça. Très discret. Loni, je vais te demander, pour toi, quelles vont être les clés pour Imavov pour aller chercher cette victoire contre Cannonier?
Alors, bon, à nouveau, je suis pas coach du tout, mais peut-être faire ce qu'il a fait contre Dolid, travailler énormément les kicks au corps, je pense. Ouais. Ça va être un travail de longue haleine parce que Cannonier, il encaisse bien et on l'a vu, contre Vettorilla récemment, il est capable de se manger énormément de coups sans broncher. Mais je pense justement maintenir plutôt une bonne distance, ne pas trop le laisser s'approcher. Cannonier, c'est quelqu'un justement qui aime énormément s'approcher, mettre énormément de pression sur son adversaire. Donc peut-être travailler les front kicks et les kicks au corps, au foie, ouais, toutes ces choses-là.
On l'avait vu, en plus, Imavov, ouais, il a eu beaucoup de mal contre Sean Strickland, qui a aussi, ouais, tendance à mettre de la pression.
Ben, c'est ça. Donc, justement, essayer d'avoir peut-être une approche un petit peu plus évasive, ou alors, au contraire, de repousser les assauts de Cannonier. En tout cas, ouais, c'est, je dirais ça, les kicks au corps, surtout, principalement.
Corps, ouais,
de garder plutôt une bonne distance.
Jambes.
Jouer énormément avec les jambes et éviter de trop le laisser s'approcher parce qu'il a plutôt une bonne allonge, Cannonier, et surtout, si t'as pas la mâchoire de Marvin Vettori, t'évites de t'en prendre trois, quoi, des directs de Cannonier.
Moi, je suis d'accord, je vais rajouter à ça aussi la nécessité d'être extrêmement précis dans les coups qu'il envoie. Il va pas pouvoir se permettre de mettre beaucoup de volume parce que sinon il va se faire contrer,
ouais,
et s'il se fait toucher, ça peut très très mal finir. Donc, on l'appelle le sniper. Là, ouais, ça va être le moment de le montrer.
C'est le moment de vérité.
Ah, voilà.
Parce que là, va falloir être précis.
Là, il va falloir être extrêmement précis, faire mouche sur le plus de coups possible, ouais, qu'il envoie, ne pas envoyer au hasard, être très méthodique, en fait. Vraiment, manœuvrer Cannonier, vraiment essayer de le maintenir à distance, comme t'as dit, parce que il va pas pouvoir rentrer en guerre contre ça.
Non, c'est perdu
trop
d'avance. C'est vraiment tenter un brawl ou une bagarre face à
un vieux briscard.
Non, face à Cannonier, c'est juste pas possible. Faut pas faire ça. Mais ça risque d'être un peu, soporifique pour certains, mais faire un peu ce qu'avait fait Adesanya, hein. C'est-à-dire,
ouais,
vraiment
vrai,
le manœuvrer, le quadriller loin. Hugo le premier avait trouvé ce combat extrêmement pénible à regarder, mais en même temps, c'était comme Cannonier, tu peux pas rentrer dans une bagarre avec lui, en fait.
En fait, c'est à partir du moment où Adesanya avait réussi à parfaitement gérer son game plan en étant très précis, en ayant un petit, oui, volume de coups, mais en travaillant beaucoup sur les kicks aussi, ça a marché comme ça.
Oui.
C'est comme ça qu'Adesanya doit le faire. Après, oui, Adesanya, on l'adore, mais il a pas le talent Imavov, on l'adore, mais il a pas le talent d'Adesanya, pardon.
Non, il a pas du tout le même niveau de striking et même de fight IQ, sans rien lui enlever, mais Adesanya, c'est quand même une autre ligue. Mais je pense peut-être s'inspirer de ce qu'avait fait Adesanya contre Cannonier, ça peut être une clé. Et aussi, j'y repense que je l'avais vu ce combat en direct. Mais même le combat de Robert Whittaker contre Jared Cannonier, j'ai remarqué un truc. Comme Whittaker a une stature un petit peu plus trapue, il capitalisait énormément sur les changements de niveau. C'est-à-dire, avec les jabs au corps, les directs, etc., il essayait justement un peu
La menace de takedown aussi pour Whittaker.
C'est ça.
Autant contre Adesanya, Cannonier n'avait pas vraiment cette problématique, parce qu'Adesanya, c'est pas un lutteur. Robert Whittaker, lui, il est très bien, il est tout à fait capable d'amener le combat au sol.
Voilà. Alors ça marche effectivement. Je conclurai là-dessus. Ça marche pour Robert Whittaker, s'il est un petit peu plus petit, plus tassé et petit. Imavov,
il se rapproche plus de la carrière d'Adesanya.
Ouais,
il
est
plus
très grand et longiligne, quoi. Donc, ouais. Mais peut-être.
Moi, il y a un autre paramètre aussi qui va être important pour Imavov, et c'est un truc que pour moi, il doit vraiment progresser dessus. C'est l'aspect mental. Il a tendance
clairement
à vraiment s'emporter dans les combats, à s'énerver, à être parasité un peu par ce qu'il dit, par les coachs, par les corners et tout.
Le combat contre Joaquin Buckley à l'UFC Paris, mais
même
terrible.
Contre Chris Curtis, le combat qui se termine vite. Contre Roman Dolidze, c'était un peu énervé aussi. Donc vraiment, il faut qu'il apprenne à se mettre dans sa bulle, rester concentré.
Strickland, ça compte pas trop, parce que Strickland rentre dans la tête de tout le monde.
Oui, voilà.
Strickland, il a des agences immobilières dans la tête des trois quarts des combattants de l'UFC. Mais clairement, moi, ça m'avait marqué contre Joaquin Buckley,
ouais,
à l'UFC Paris. Buckley est tellement rentré dans sa tête, c'était terrible, quoi.
Ouais. En fait, c'est trop facile de faire sortir Imavov de son combat, de lui enlever sa concentration, en gros, c'est ça qui...
Ouais, c'est ça. Alors que martialement parlant, et
ouais,
on l'a
voilà,
vu là récemment, il est très très fort.
Ouais. Après, je pense pas que ce soit Jared Cannonier, qui est un gars plutôt discret, qui va faire
Non, mais sans nécessairement parler ou trash talk, je pense que justement, même les coups parlent, en fait.
Oui, c'est
vrai. La pression constante, le fait justement, ça peut être une grimace à un moment donné. Honnêtement, n'importe dans un... Enfin, moi, entre guillemets, je m'en rends compte beaucoup très moindre mesure, mais dans, quand je fais des sparring, le moindre truc peut te faire sortir de justement de ta bulle. Ça peut être une grimace de ton adversaire, ça peut être ce que tu veux. Et...
ouais, non, mais c'est vrai que c'est ça, c'est un truc dans les sports de combat. Quand genre 2-3 fois tu vas tenter un truc, à chaque fois tu te prends un ça, contre, ça énerve. Et t'as, non, t'as
vraiment,
la marre. T'as,
vraiment.
T'as envie de te lancer à corps perdu sur le mec.
Et c'est ça. Et là, bon, là, on parle justement de l'UFC et t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Donc,
ouais,
voilà. Faut faire très
attention. Donc là-dessus, c'est surtout là-dessus que je l'attends à Imavov, parce que techniquement, j'ai aucun doute. Je sais qu'il répondra présent. Est-ce qu'il va avoir le niveau pour battre Cannonier?
Moi, je pense qu'il l'a sur le papier, il l'a. Maintenant, je pense aussi. Faut voir le jour J.
Voilà, c'est ça. Mais écoute, on va faire les pronos alors.
Ah.
Vas-y. Moi, je vais y aller. Décision logique, on va dire. Imavov par décision.
C'est pas pour être pessimiste, mais je vais mettre l'autre versant de la médaille. Je vais dire Cannonier par KO technique au quatrième.
Ok. Donc là, en plus, on va être sur deux combattants qui, Imavov commence à être expérimenté. Il a été plusieurs fois main event, quand même.
Oui, oui, oui.
Il a fait beaucoup de combats en 5 rounds. Là, ça va être un de plus. Cannonier, j'en parle même pas. Il a combattu pour le titre 2 fois. Et une fois, je crois.
Une fois, ouais.
Contre Adesanya. Je revérifie au cas où, mais oui, c'est ça, une seule fois. Donc voilà, ça va être deux combattants. En tout cas, je pense que si Imavov vient remporter ce combat... là, on va pouvoir commencer à discuter très sérieusement d'une potentielle chance pour le titre. Hein.
Chance pour le titre, ou alors revanche contre Strickland. Hein.
Bah, ouais, c'est ça. Hein. Parce que pour le titre, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Il y a potentiellement le vainqueur de Whittaker Shimaev.
Ouais, il y a Shimaev en plus qui est arrivé il y a peu de temps.
Il y a un Duplessis Adesanya qui est dans les coulisses. Il y a un Strickland qui vient de regagner un combat et qui est toujours dans les top contenders. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y aura encore.
Il y a quand même du monde là.
Il y aura encore un autre combat avant d'accéder au titre s'il l'emporte.
Oui.
Mais il s'en rapproche en tout cas petit à petit. À voir donc samedi. Il nous reste 4 minutes. On peut parler un petit peu de l'autre Français qui combat samedi, Taylor Lapillus, qui reste sur une défaite contre Farid Bacharat.
Oui.
Une défaite où il a été clairement surclassé. Mm-hmm. On va pas se mentir, Taylor Lapillus, on n'en attend pas énormément, pas autant qu'un Imavov.
Non, mais il a, comment dire, Taylor Lapillus, c'est peut-être pas effectivement le même niveau qu'un Nassourdine Imavov, mais il a quand même de très bonnes armes en striking. Je pense qu'il peut réussir quand même à faire peut-être pas d'obtenir un finish, mais il peut tout de même faire un très beau combat et se remettre un petit peu en selle après justement une dernière défaite qui était assez décevante.
Ouais, tout à fait. On l'a dit de toute façon, Taylor Lapillus, c'est pas un combattant qui va aller à la guerre, c'est pas un combattant
qui va vraiment envoyer fort.
C'est un stratège.
Oui, c'est ça.
Tout simplement.
Il a une approche justement très millimétrée du striking. Mmh. Enfin, c'est vraiment, il cadre très bien son adversaire. Il fait attention à jamais trop rentrer dans la bagarre ou à pas trop se laisser emporter. C'est pas, il fait pas des trucs super flashy comme Yves Landu pourrait le faire, par exemple. Il est justement très carré et bon, c'est un petit peu ça justement qui peut parfois lui porter préjudice, bah parce qu'il manque un petit peu cette étincelle de folie qu'on serait en droit d'attendre justement de certains combattants à l'UFC. En fait, c'est ce qui fait la différence parfois. C'est cette étincelle qui rend le combattant imprévisible et qui permet d'obtenir rapidement une victoire.
Et c'est surtout ce qui lui permet d'avoir toujours une option au moment dans un combat où il est en difficulté.
C'est ça.
En fait, si tu te fais dominer sur plusieurs rounds, faut avoir la conscience que tu peux accélérer et essayer de le mettre en danger et aller chercher une victoire. Oui. Là, Taylor Lapillus, malheureusement, il n'a pas ça. Mais on a quand même envie de le voir gagner parce que c'est un gars qu'on aime bien.
C'est un très bon commentateur.
C'est un très bon commentateur, c'est ça. Il fait beaucoup de choses pour le MMA en dehors de ses combats.
Oui, oui, oui.
Et voilà, on a hâte de le voir gagner. Donc, on verra tout ça sur la Fight Night qui aura lieu samedi. Il y a d'ailleurs Raul Rosa Junior, donc le plus jeune combattant du
qui a, je pense, la meilleure trogne de tout l'UFC. Ah ouais, si vous n'avez jamais vu son visage, allez regarder, incroyable.
Ah, il a 18 ans, je crois. Donc,
Il
est dans la catégorie de Taylor Lapillus, d'ailleurs.
Terrible.
Mais voilà, beaucoup d'espoir en ce petit jeune qui a quand même des choses intéressantes.
Qui a du potentiel.
Hein.
Qui a du potentiel.
Il a une défaite, certes, mais il a du potentiel. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous donner vos retours, à débattre avec nous ou nous poser des questions. Ce fera un plaisir d'y répondre. Donc voilà, n'oubliez pas, la première règle du Bagarre Club, c'est qu'on parle du Bagarre Club. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'émission, à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter, @lebagarreclub. Merci à vous, on vous souhaite une très bonne soirée sur Prune et on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure. Bonne soirée.
Bonne soirée.